Matthieu 24, comment vivre dans un monde fragile? Première partie, prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, notre monde est fragile. Mais toi, tu es solide, tu es stable. Apprends-nous à le voir. Aide-nous à le voir, Seigneur, et à voir sur quoi fonder notre vie, afin qu'elle soit fondée sur le roc et non sur le sable. En ton nom, je prie, Seigneur Jésus. Amen. Comment vivre dans un monde fragile ? Notre monde est fragile et parfois nous l'oublions. Et à l'occasion d'un événement, tout d'un coup, ce qu'on croyait être quelque chose de stable sur quoi fonder notre vie va disparaître. Des fois, certains enfants auront un des parents qui va mourir et tout d'un coup, cette mort va faire que la famille va devoir changer d'endroit, déménager. Des fois, si c'était la personne qui apportait le revenu, il va avoir un impact très lourd à gérer sur toute la famille. D'autres fois, ça va être une tante qui meurt et tout d'un coup on se pose la question « Mais moi aussi je vais mourir un jour. » D'autres fois, ça peut être la douleur très profonde de parents qui perdent un enfant. Ça peut être aussi des choses plus simples. Ça peut être un travail qu'on n'a pas eu, un espoir perdu. Ça peut être peut-être un couple brisé. Ça peut être, si on est adolescent, une amoureuse ou un amoureux qui, tout d'un coup, s'éloigne de nous. Tous ces événements peuvent remettre en cause beaucoup d'éléments dans notre vie. Peuvent nous amener à nous poser la question « Mais où je suis ? Mais qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Et vers quoi je me tourne ?» Si toute notre vie c'était de devenir important dans notre travail et qu'on perd ce travail, qu'est-ce qui va se passer? Si toute notre vie c'est d'avoir beaucoup d'argent et qu'on n'a plus assez sur le compte en banque et qu'on nous fait des pénalités, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va gérer toutes nos situations où ce monde est fragile? Où ce monde est peu stable. Ce problème n'est pas nouveau. Ce problème est, on pourrait dire, ancien comme le monde. Et j'aimerais vous montrer comment il s'est posé ce problème pour les disciples et comment Jésus a répondu à leurs questions. Est-ce que Laurence, je peux te demander de passer à l'image suivante? D'abord, un petit aperçu de ce qu'on a vu ces dernières semaines dans l'évangile de Matthieu, dans ces derniers mois. On avait vu d'abord le chapitre 21. Ici, vous voyez, il y a le 21 en arrière-plan. C'était l'entrée à Jérusalem. Jésus était entré à Jérusalem et déjà, il a remis en question la structure de l'adoration au temple. Il avait purifié le temple. Il avait dit qu'il y avait des problèmes plus profonds, même si le monde de l'époque avait l'air de bien aller. Lui, il leur a dit, il y a des problèmes profonds dans notre attitude envers Dieu. Et il avait maudit le figuier pour montrer qu'il y avait des choses qui ne portaient pas de fruits, qui auraient dû porter du fruit. L'autorité de Jésus avait été remise en question ensuite et Jésus avait dit, je ne vous réponds pas si vous-même vous n'êtes pas honnête par rapport à l'autorité de Jean le Baptiste. Si vous ne reconnaissez pas d'où vient l'autorité de Jean le Baptiste, dans ce cas-là, moi, je ne vous répondrai pas. Ensuite, Jésus avait donné l'image de deux fils. Un fils qui disait « Je vais faire, papa, ce que tu me demandes » et qui ne le faisait pas. Et un autre qui disait « Non, je ne ferai pas ce que tu me demandes » et qui le faisait ensuite. C'était une occasion pour Jésus de souligner « L'important, ce n'est pas de dire qu'on fait la volonté de Dieu, c'est de la faire. L'important, ce n'est pas l'apparence, c'est notre cœur et notre attitude véritable devant Dieu. » Et il finissait ce chapitre avec la parabole des vignerons qui va être une façon de dire par Jésus que la vigne, c'était Israël, c'était le peuple de Dieu. Les personnes responsables étaient censées en produire le fruit. Comment? En les enseignant bien, en les guidant bien. Et ceux qui devaient guider avaient essayé d'obtenir des choses pour eux, au lieu de rendre à Dieu les fruits de ce travail. Ensuite, au chapitre 22, on a vu des controverses, en commençant par une parabole sur le banquet de noces. Ensuite, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César ? Et Jésus dira, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Les Sadducéens poseront la question sur le mariage à la résurrection, et Jésus leur répondra que ils ne comprennent ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Car la résurrection ne sera pas comme ici. Et Dieu est le Dieu des vivants. Il est Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Plus loin, on verra le plus grand commandement. Jésus rappellera que c'est aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, de tout son esprit, et son prochain comme soi-même. Et quand Jésus posera une question, après avoir bien répondu à toutes ces questions qu'on lui pose, il dira de qui le Christ est-il le Fils ? Pour pouvoir aider les personnes de l'époque à voir que ils avaient une idée de comment le Messie arriverait, ils avaient une idée de comment leur monde allait évoluer, qui n'était pas ce qui allait se passer. Ensuite, au chapitre 23, qu'on a vu la semaine dernière, Jésus a critiqué les pharisiens. Il leur a dit, vous avez beaucoup de questions où votre attitude n'est pas juste. Où vous faites les choses à l'extérieur, mais à l'intérieur, votre attitude de cœur n'est pas en ordre. Ensuite, nous arrivons maintenant au chapitre 24, qui est le discours sur la fin des temps. Est-ce que Laurence, je peux te demander de passer à la page suivante ? Ce discours sur la fin des temps va commencer par une question. Cette question va être introduite par une observation. J'aimerais vous lire les trois premiers versets. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Parole de notre Seigneur. Le temple, c'était la construction la plus solide de l'époque. Des pierres immenses qui faisaient, semble-t-il, 10 mètres de long. Certaines, c'était des sortes de grosses, longues pierres, très très longues, très très fortes. Les gens, ils se disaient, ça c'est du solide. Ça ne bougera pas. Ça sera jamais détruit. Ça, c'est du solide. Est-ce qu'il y a des choses dans vos vies, vous vous dites, ça ne bougera jamais. Mon papa, ma maman, ça, ils seront toujours là. Mon enfant, mon travail, ma maison, ça sera toujours là. Et vient un cyclone dans nos vies, et ce qu'on croyait être toujours là est balayé. C'est ce qui va se passer pour les personnes d'Israël. Leur fondation de leur vie, la plus solide, c'était ce temple extraordinaire. Superbe, une des merveilles du monde de l'époque, recouverte d'or, ce qui fait que quand les gens s'approchaient, semble-t-il, ils étaient éblouis par la lumière. C'est comme s'il y avait un flash lumineux qui leur apparaissait quand ils montaient, et ils disaient, ça c'est le temple de Dieu. Ça c'est le temple de Dieu qui brille de la lumière qu'on ne voit dans aucun autre endroit au monde. Et cette lumière physique, matérielle, terrestre, va disparaître une génération après Jésus. Jésus, il leur dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il y a un psaume, le psaume 121, qui dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Les montagnes, c'est ce qui est le plus élevé dans notre monde. C'est ce qui semble le plus stable. Est-ce que vous pensez que les montagnes vont bouger pendant votre vie ? Non. Est-ce que le cirque de Sillaos va disparaître pendant votre vie ? Peu probable. Pourtant, nous n'en savons rien. Et dans le psaume 121, après, d'où me viendra le secours ? La réponse est, le secours me vient de Dieu, d'être auprès de Dieu. Le secours me vient d'auprès de Dieu, en hébreu même. Ce qui veut dire, c'est être en relation avec Dieu qui sera notre secours. C'est la relation avec Dieu qui va nous permettre de traverser les difficultés, de traverser les secousses, les tremblements de terre que notre vie va connaître. Car votre vie et nos vies vont toutes connaître des tremblements de terre majeurs. Le dernier tremblement de terre que vous connaîtrez est très simple. Ce sera la mort. Ce sera le dernier que vous expérimenterez sur cette terre. Et entre aujourd'hui et ce moment-là, vous aurez différents tremblements de terre. La question, c'est comment on va les vivre? Comment on va trouver cette stabilité? Et les disciples ont ce problème. Jésus est en train de leur dire, le plus stable que vous voyez dans ce monde va être détruit. Pierre sur pierre qui ne soit renversée. Les disciples vont poser deux questions, et observez bien la question telle qu'elle est formulée. Dis-nous d'abord, quand cela arrivera-t-il? Quand quoi arrivera? Quand arrivera quoi? Il leur a dit quoi juste avant? Il leur dit, le temple sera détruit. Qu'est-ce qu'ils demandent les disciples? Quand est-ce que ça va être détruit? Première question. Et ensuite, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il y a au moins deux ou trois choses ici. Il y a la destruction du temple, il y a la venue de Jésus, et il y a la fin du monde. Est-ce que c'est le même moment? Est-ce que les trois sont ensemble? Je vais vous dire une chose. Les disciples, au temps de Jésus, eux, ils pensaient peut-être que les trois étaient ensemble. Est-ce que nous, on sait si c'était ensemble?
Aujourd'hui, le temple a déjà été détruit.
Le temple a été déjà détruit? Est-ce que la fin du monde est déjà venue?
Non.
Est-ce que la venue de Jésus qui est mentionnée est déjà arrivée ou pas?
Non.
C'est des questions. Vous voyez qu'il y a plusieurs questions, et à votre avis, dans la réponse de Jésus, il va parler que de la fin du monde ensuite? Il va parler de quoi dans sa réponse? Il va parler de trois choses. La première, il va parler de quand cela arrivera, quand le temple sera détruit. La deuxième, le signe de son avènement. La troisième, la fin du monde. Et je vous encourage à toujours mieux lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on vous a déjà fait remarquer que ce discours allait parler de la destruction du temple? On vous dit ça, c'est le discours sur la fin des temps. Mais il y a plusieurs choses. Vous savez qu'est-ce que c'est, cette habitude qu'on a de lire seulement ce qu'on est habitué à voir? De lire seulement que ce qu'on a été habitué en disant, bon ben là, ils demandent la fin du monde. Non, ils ne demandent pas ça. Jésus vient juste de dire que le temple va être détruit, ils lui disent quand est-ce que ça va arriver. C'est très simple. Mais nous avons dans toutes les églises des traditions de lecture. Ça s'appelle une tradition, ça. Une tradition de lecture, et quand on lit le texte, on le lit toujours de la même façon. On se dit, ça veut dire ça. Et on ne se pose pas des questions toutes simples. Et quand vous venez à la parole de Dieu, vivante, Jésus, quand vous venez à la Bible, venez avec simplicité et dites, Jésus, explique-moi. Explique-moi ce que tu veux m'enseigner. Parce que, dans chaque église, on a une façon de comprendre, limitée. Et ce que je vais vous expliquer est assez limité. J'espère vous expliquer du mieux que je peux la parole qui est enseignée ici, mais je voulais juste vous faire observer, dans la question des disciples, il y a trois points. Et il n'est que normal et logique que Jésus va répondre à ces trois points. Le casse-tête que nous aurons ensuite, que Jésus permet, c'est que, d'abord, est-ce que ces trois points sont ensemble? Est-ce que la destruction du temple et l'avènement dont les disciples parlent s'est passé à la destruction du temple, ou est-ce que ça sera à la fin du monde? Ou est-ce que ce sera avant la fin du monde? Est-ce que c'est trois moments séparés? Deux ensemble? On va en parler ensemble, parce que il est dit aussi que quand Jésus reviendra, il y aura le jugement. Donc, quand Jésus reviendra, c'est la fin. C'est la fin, et ça sera le moment où il y aura le jugement et la fin. Est-ce que ça prendra du temps ou pas? Ça sera des questions qu'on aura à se poser. Maintenant, observez bien comment Jésus va répondre. Observez bien et gardez les yeux ouverts. Versets 4 à 8. Le début de la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? D'abord, il dit, faites attention, il y en a qui vont vous dire qu'il est revenu. Il y en a qui vont vous dire, c'est moi, le Christ. Le Christ, c'est celui qui allait rétablir la justice. C'est lui, le sauveur du monde. Et dans ce monde, plusieurs sont venus en disant, c'est moi qui vais donner la paix à ce monde. Certains dirigeants de pays, des fois, ont dit, c'est moi qui vais être le père de cette nation, qui va vous donner cette stabilité. Au temps de Jésus, juste après, il y a eu Bar Corba, à peu près 100 ans après Jésus, qui a dit, je suis le Messie, je vais rétablir le royaume d'Israël. Alors que Jésus était le vrai Messie, le Christ. Et beaucoup de gens séduiront, beaucoup. Donc d'abord, la première séduction, c'est des gens qui vont se présenter comme des sauveurs du monde. L'autre élément, est-ce que ça c'est la fin du temps ça?
Non.
Est-ce que ça se passera pendant tout le temps entre aujourd'hui et... Alors d'abord, entre le moment où Jésus parlerait et la destruction du temple, et la destruction du temple et son retour, à votre avis? Ça allait être continu ou ça serait juste un moment?
Après la mort de Christ,
on continue. Ensuite, on va lire ensemble le verset 6 jusqu'au verset 9. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Qu'est-ce qu'il dit là? Il y aura des mauvais temps. Est-ce que ces temps seront associés avec la destruction du temple? On ne sait pas. Est-ce que ça sera associé avec son avènement? On ne sait pas. Est-ce que ça sera associé avec la fin du monde? Sûrement pas. Ce ne sera pas encore la fin. Il faut que nous apprenions à lire. Sinon, nous allons nous faire balader. Chaque siècle se fait balader de gauche et droite. Vous savez quelle est la façon de lire ce texte-là de notre siècle présent? Tout ça ne parle que de la fin des temps. Vous savez quelle était la façon de le lire par les chrétiens d'il y a un siècle? Non. Avant 1900, dans beaucoup d'églises, on disait Jésus est sur le point de revenir, ces guerres font partie du passé, et nous allons faire revenir Jésus par la conversion des personnes et le changement moral dans la société. On appelait ça l'amilléniarisme. Il y a 100 ans, c'était comme ça. Est-ce que vous savez comment on lira ce texte dans 100 ans? Non. Rendez-vous compte que vous faites partie d'une culture qui vous dit « il faut lire ce texte comme ça ». Je vais vous dire une chose. Lisez la parole et priez. Je ne suis pas en train de vous sortir des théories absurdes. Je suis en train juste de vous dire, vous voyez, il y a écrit le mot « fin » ici et il y a écrit le mot « fin » ici. Il demande par rapport à la fin du monde et il dit « ce ne sera pas encore la fin ». Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? Il est en train de dire entre maintenant et la fin, il y aura quoi?
Des guerres.
Est-ce que les guerres seront un signe que c'est la fin?
Non.
Qu'est-ce que nous on aimerait?
On aimerait des signes.
Il est en train de dire tout ce qui ne sera pas des signes ici. Il est en train de dire tout ce que ce... Il est en train de dire tout est fragile. Si vous avez des guerres, ça fera partie. Et tous les siècles, vous aurez des gens qui vous disent « Ah, ça y est, Jésus va revenir parce qu'il y a une guerre à tel endroit. Regarde ce qui se passe en Iran. Regarde ce qui se passe à tel endroit. Regarde ce qui se passe. » Vous aurez des gens dans tous les siècles qui commencent à vous dire « Regarde, tout ça, c'est des signes, c'est la fin. Notre monde va complètement disparaître. » Et vous savez quoi? Ça fait 20 siècles que c'est comme ça. Et même avant Jésus, c'était comme ça. Est-ce que je suis en train de vous dire que Jésus ne va pas revenir? Je suis en train de vous dire, faites attention, eux demandaient des signes. Jésus est en train de leur expliquer tout ce qui ne sera pas des signes. Guerre et bruit de guerre, vous en aurez. Est-ce qu'on en a eu depuis le temps de Jésus des guerres et des bruits de guerre? Est-ce que vous croyez qu'on va en avoir encore? Dans l'Apocalypse, on voit que même à la fin des temps, si l'Apocalypse parle de la fin des temps, il y aura des bruits de guerre. Mais ce ne sera pas seulement la fin des temps. Ça va continuer. Est-ce qu'à votre avis, la réunion va être paisible et pendant 500 ans, ça va tous bien se passer? Le RMI ne fera que monter, la situation sociale ne fera que s'améliorer? Est-ce que vous croyez que ça va se passer comme ça?
Non.
Il y a des signes, alors, qu'on peut observer, qui finalement sont des signes de la fragilité dans nos sociétés. Un des signes de fragilité, il est tout bête. Si un État donne beaucoup et ne reçoit peu, qu'est-ce qui va se passer?
Il s'endette.
Il s'endette. S'il s'endette beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas s'endetter sans arrêt? À un moment donné, il y a ce qu'on appelle être en défaut de paiement. Vous avez entendu des nations qui vont être en défaut de paiement? Il y avait eu la Grèce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus payer leurs dettes. Quand on ne peut plus payer ses dettes, au temps d'Israël, vous savez ce qui se passait quand un homme ne pouvait plus payer ses dettes? Il devenait esclave. Qu'est-ce que ça veut dire devenir esclave? Ça veut dire, puisque tu n'es pas capable de gérer tes dettes, tu deviens la possession de quelqu'un d'autre. Il y a des livres de science-fiction qui imaginent quand des pays vont être des possessions de compagnies comme Google, Facebook, etc. Vous pouvez lire, c'est amusant, est-ce que ça se passera ou pas? Ce qui est en jeu, c'est que si un État devient trop endetté, il va devenir dépendant de quelqu'un d'autre. Vous savez à qui la dette américaine appartient? Ça, c'est des choses connues. Les États-Unis sont très endettés. C'est le pays le plus endetté. Est-ce que vous savez qui est-ce qui possède la dette américaine? Qui est-ce qui a acheté ce qu'on appelle des bons au trésor, je crois? C'est la Chine. Qui possède la dette de la France? Nous sommes dans un temps où nous voyons plusieurs choses qui seront les secousses. Globalement, en France, il y a moins de naissances. Ce qu'on appelle une pyramide des âges qui vieillit. Plus elle vieillit, plus ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont être âgés et moins de jeunes. Ça veut dire que s'il y a une personne jeune qui travaille, et va écoute bien parce que tu vas expérimenter ça, et qu'il y en a 5 qui sont à la retraite, comment ça va marcher? Est-ce que les gens à la retraite ont mis des économies toute leur vie et vont utiliser leurs économies pour la retraite? Est-ce que ça marche comme ça? En Suisse, ça marche comme ça. Les gens économisent et tout ce qu'ils ont pour leur retraite, c'est mis dans une caisse, une sorte de grosse tirelire. Et quand ils seront âgés, cette grosse tirelire sera pour eux, leur banque. Si les banques ne font pas faillite, c'est comme ça que ça se passe en Suisse. En France, comment ça se passe? On donne de l'argent à l'État. Mais l'État, est-ce qu'il le met dans une grosse tirelire?
Non.
Il paye les autres. Donc ça veut dire que s'il y a beaucoup qui cotisent, est-ce que les gens qui sont à la retraite, ils reçoivent beaucoup? Oui. S'il y a peu de gens qui cotisent, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le choix. Soit on dira, quand Betty, tu seras très vieille, soit on te dira, voilà, tu avais 500 euros, maintenant tu vas avoir 200 euros, ou 400, 300, et tous les ans on va diminuer. Ou bien on va faire travailler les gens plus longtemps. Vous avez entendu parler de trucs comme allonger le temps de travail? Il y a quelques années, on avait sorti des théories du style, il faut travailler moins. Est-ce qu'on est toujours dans cet état d'esprit?
Non.
Si vous ne travaillez pas et que vous ne gagnez pas de l'argent et que vous ne cotisez pas, si vous ne cotisez pas, est-ce que les gens qui sont à la retraite vont recevoir de l'argent?
Non.
Le problème, c'est qu'on est dans un système où est-ce que vous croyez que les gens âgés accepteront que leur retraite diminue?
Ils n'ont pas le choix parce que c'est le gouvernement qui...
D'accord. Est-ce que si demain le gouvernement dit « Nous sommes désolés, les caisses de l'État sont vides, il va falloir diminuer le RMI de moitié » Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Deux possibilités. On peut avoir une misère, peut avoir une révolte sociale majeure. Parce que les gens ne comprendront pas ce qui se passe. Ils ne comprendront pas que l'État est endetté, qu'il va tomber en faillite, que s'il est en faillite, il va devenir la possession d'un autre État. Et après, peut-être que ça serait les Chinois. Alors, est-ce que ça serait un problème que la Chine possède la dette de la France? Je n'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non, on n'en sait rien. Mais ce qui est vrai, c'est que si on s'endette, on devient dépendant de quelqu'un d'autre. Les enfants, dans quelle mesure est-ce qu'ils deviennent autonomes ? À quel moment, par exemple, dans ton cas, Eva, tu vas pouvoir dire « je fais ce que je veux » et que ta maman n'aura plus le droit de te dire « voilà, tu dois faire ceci, cela ». Quand tu auras ton salaire, quand tu auras ton appartement ou ta maison, là, ta maman viendra te voir, sera contente, mais si elle te dit « tu dois acheter ceci, cela », tu diras « non, je fais ce que je veux », quelque part. Tu devras respect à ta maman, toujours, hein, ça disparaîtrait pas, ta maman et ton papa, mais tu feras ce que tu veux. C'est pareil avec les états. Si on est des états adultes, ça veut dire qu'on est capable de payer nos factures. Et quand on n'est plus capable de payer, ben on est en échec. Et ça sera des secousses majeures. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'état français ? Nous ne savons pas. Tout le monde est juste conscient qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il va y avoir quelque chose parce que c'est une logique qui va se présenter. Est-ce que la France va faire venir 50 millions de travailleurs d'Algérie et de Tunisie pour compenser ? Et l'État français deviendra un État musulman ? Peut-être. C'est une des possibilités. C'est une des possibilités qui est en train de se passer dans le pays de la Hollande. La Hollande sera le premier pays musulman d'Europe dans peut-être 10 ou 20 ans, par une évolution démographique. Et déjà, il y a des tensions sociales parce que la foi musulmane est différente et a un désir d'avoir un impact sur la société. C'est des réalités, des tensions que nous allons vivre. Est-ce que je suis en train de vous parler de la fin du monde, là ?
Non.
Je suis en train de vous parler de quoi, là ? Je vous parle juste de la fragilité de notre monde. Jésus, il parlait de quoi, ici ? De la fragilité de notre monde. Des guerres, des troubles. Une nation s'élèvera contre une nation. Est-ce qu'il est en train de dire quelle nation, là ? Est-ce qu'il est en train de prédire quelque chose ? Est-ce qu'il y a une nation qui s'est élevée contre une nation depuis que Jésus est mort ? Une seule ou plusieurs ? Si, moi je viens vous dire, ça c'est le signe qui nous permettra de reconnaître quand Jésus revient. Qu'est-ce que vous me dites ? Ben non, ça ne marcherait pas. Un royaume contre un royaume, en divers lieux, des famines. Est-ce qu'il y a déjà eu des famines depuis que Jésus est parti ? Est-ce qu'il y a eu des tremblements de terre ? Vous voyez un petit peu ? Est-ce que vous avez déjà lu ce texte avec l'arrière-pensée, ça c'est les signes de la fin des temps ? Est-ce que vous avez déjà expliqué à des gens, le signe de la fin des temps, c'est qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, et il y aura des famines en divers endroits ? Vous vous rendez compte un peu ? Quand on lit, qu'est-ce qui se passe ? Quelle était la question des disciples ? Quand cela arrivera-t-il ? Quand quoi arrivera ? Il parlait de la destruction du temple. Il faut du bon sens. Quand vous lisez, ayez du bon sens. Quel sera le signe de ta venue, de ton avènement ? Parousie en grec. Et de la fin du monde. Donc Jésus va de fait parler de la fin du monde. Mais pour que vous reconnaissiez s'il parle de la fin, il faudra que vous lisiez, et ça, ce sera la fin. Mais il dit là, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est intéressant. Ce que je vous fais observer sur ce texte-là est quelque chose de fréquent quand nous lisons la Bible. Nous avons tendance à mettre des œillères et à lire ce qu'on a envie de lire. Dieu veut nous enseigner beaucoup plus. C'est pour ça que je vous encourage souvent, je vous dis, priez quand vous lisez la Bible. Demandez à Dieu de vous éclairer, afin que vous voyiez que vous lisiez simplement et que Dieu puisse vous enseigner. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Est-ce que les douleurs, il n'y en aura qu'à la fin des temps ? Est-ce que ça parle de quoi, ça ? On est dans quelle partie de la question des disciples ?
Ça parle
du temple, non ? Peut-être pour la destruction du temple, peut-être pour l'avènement, peut-être pour la fin du monde, mais c'est le commencement. C'est très difficile de dire. En tout cas, est-ce que vous pensez que le monde a vécu des douleurs ? Est-ce que vous croyez que les douleurs d'aujourd'hui sont pires que les douleurs d'il y a un siècle ?
On mesure pas.
Quand vous essayez de comparer la souffrance, c'est très difficile. À chaque fois qu'on essaie de la comparer, on dit des bêtises. Parce que c'est très difficile d'évaluer la souffrance. Est-ce que Laurence, tu peux passer à la page suivante ? Ensuite, Jésus va parler de persécution et de témoignage. Je vous lis les versets 9 à 14. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est quoi la fin ? Alors, viendra la fin de quoi ? La destruction du temple ou la fin des temps ? A priori, c'est la fin des temps. Vous voyez comment on peut lire ? Comment on peut être attentif à ce qu'on lit, tout simplement ? Et quel impact cela a sur notre façon de comprendre ? Il y en a qui disent que ce texte ne parle que de la destruction du temple. Est-ce que c'est juste ça ?
Non.
Il y en a d'autres qui disent que tout ce chapitre ne parle que de la fin des temps. Est-ce que c'est juste ça ? C'est un discours qui va parler de la fin des temps, mais pas que de la fin des temps. Il va parler de plusieurs choses. Il va parler du temps entre maintenant et la fin des temps. Est-ce qu'il y a eu des moments où les chrétiens ont été persécutés ? Est-ce que c'est un signe, quand les chrétiens sont persécutés, que c'est la fin des temps ? Non. Vous savez ce qu'on entend des fois ? J'entends des enseignants qui disent « Le signe que c'est la fin des temps, c'est quand les chrétiens partout vont commencer à être persécutés. » Vous avez déjà entendu des trucs comme ça ? Si vous entendez ça, qu'est-ce que vous allez répondre ? Ça fait longtemps. Et dans ce monde, il y a des gens, des chrétiens persécutés, et qui meurent pour leur foi dans différents pays du monde. Au Pakistan, en Iran, en Somalie. Dans beaucoup de pays, vous avez des gens qui sont persécutés pour leur foi et qui vont être prêts à donner leur vie. Est-ce que ça sera le cas, à votre avis, un jour en France ?
Ça a déjà été, les Juifs.
Ça a déjà été ? Est-ce que ça le sera ?
C'est possible.
C'est possible. Est-ce qu'on le sait ? Ça peut le devenir. Ça peut venir. La question n'est pas tellement est-ce que ça viendra, mais comment vous vous positionnez ? Est-ce que vous êtes prêt à vivre quand vous êtes critiqué ? On vous fera mourir. Et ça, une génération après Jésus, déjà beaucoup expérimenteront cela. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Dans l'Empire romain, il y aura des persécutions sous l'empereur Claude, sous l'empereur Caligula... Je crois Caligula, en tout cas Claude, l'empereur Claude, tous les juifs et tous les gens qui ne croyaient pas en l'empereur comme souverain vont être persécutés et certains mis à mort. Donc ça va être pour eux toutes les nations. Les gens de l'époque, c'était quoi toutes les nations ? C'était tout l'Empire romain, c'est ce qu'ils connaissaient. C'était ce qu'on appelait le oïcuméné. Ça a donné œcuménisme aujourd'hui. L'œcuménisme, c'était toutes les nations, c'était le monde connu. Des faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Est-ce que quand les faux prophètes viendront, c'est la fin des temps ? Oui ou non ?
Non.
Est-ce que c'est des signes de la fin des temps ?
Non.
Je peux vous dire un truc ? Tout ce discours de Jésus, c'est pour dire « Faites attention à ne pas vous attacher à des signes. » Qu'est-ce que font les humains ? Il a dit quoi ? Il y en a qui viendront qui diront « Je suis le Christ ». Il leur a dit « Ne vous attachez pas à cela ». 90% de ce discours, c'est Jésus qui explique « Attention, oui, il y aura la venue, mais ne vous attachez pas à des signes. » Et des prophètes, des faux prophètes, il y en aura. Est-ce qu'ils enseigneront beaucoup ? Oui. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Charité, c'est l'amour, l'amour généreux, l'amour qui se donne. Est-ce que nous avons beaucoup d'amour dans notre cœur ? Est-ce que vous avez beaucoup de... Est-ce que vous êtes appelé à aimer un petit peu ou beaucoup ? L'appel de la foi chrétienne, c'est d'aimer. Et à la fin de cette heure, on parlera de la dîme. Indépendamment de la dîme, est-ce que vous investissez vos sous plus pour vos choses qui vous plaisent ou par amour pour l'autre ? J'ai vu ce nouvel ordinateur, truc, ce nouvelle chose, je prends pour moi. Ah, mon épouse, mon époux, mon enfant, truc, aurait besoin. Qu'est-ce qui est premier dans notre vie? Ça sera une des questions. Aussi au niveau du temps. Est-ce qu'on passe du temps à aimer? Parce qu'aimer, ça prend du temps. Ça veut dire qu'on écoute l'autre. Ça veut dire qu'on est attentif à l'autre. Ça veut dire qu'on va se mettre en second. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Et Jésus dit, faites attention, la charité du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes appelés à aimer, à mettre en premier notre prochain. Est-ce que si on a accueilli Jésus aujourd'hui, c'est bon, on va être sauvé? Et après, quoi qu'on fasse? Vous savez qu'il y a des gens qui vous enseignent comme ça, qui vous disent, si tu as donné ta vie à Jésus, tu vas être sauvé? Qu'est-ce qu'ils font avec ce verset, à votre avis? Est-ce qu'il est dit, celui qui persévérera pas sera sauvé? Non, je suis désolé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La fin en question, c'est quoi à votre avis? Là, pour certains, ce sera la fin de notre vie. Pour d'autres, ça pourrait être la fin des temps. Dans notre foi, nous sommes appelés à persévérer. Est-ce que ça veut dire que c'est seulement à la fin de notre vie que Jésus va nous dire t'es sauvé, t'es pas sauvé? Non. Dès que nous nous consacrons à Jésus, que nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes sauvés. La question, c'est est-ce que nous la laissons dans ses mains ou est-ce que nous la reprenons? On est des champions, nous, de « Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mes émotions » quand on a les bonnes émotions. Et le lendemain, je vois la nouvelle voiture, le nouveau aspirateur, la nouvelle chose. Et tout d'un coup, j'investis dans ça. Alors qu'il y a d'autres choses où j'aurais pu investir. Je ne suis pas en train de vous dire ne changez pas d'aspirateur, ne changez pas de voiture. Ça fait partie de la vie. Mais je suis en train de vous dire, faites-le sans mettre cela en premier. Mettez Dieu en premier. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire à ses disciples? Ne vous préoccupez pas d'être passif à regarder les signes. Préoccupez-vous de quoi? Annoncez l'évangile partout. Qui c'est qui va annoncer l'évangile à toutes les nations? C'est nous. C'est nous. Donc il est en train de leur dire, bah, travaillez-y, travaillez-y. Et ensuite viendra la fin. Encore un signe qui n'est pas un signe. Il est en train de leur dire, ne vous préoccupez pas d'attendre, préoccupez-vous d'être en marche. Parce que nous, qu'est-ce qu'on aime bien les êtres humains? On aime bien la télévision. Vous savez comment ça marche la télévision? Je ne fais rien, la télévision fait tout. C'est bien? C'est les gens dans la boîte qui vont bouger, qui vont s'aimer, qui vont souffrir. Moi, je ne souffre pas. Qui vont être généreux. Ah, je me sens bien quand ils sont généreux, puis qu'après, moi aussi, et puis après... Qu'est-ce que j'ai fait moi dans tout ça?
Rien.
Zéro. Qu'est-ce qu'elle a fait la boîte? Tout. On est comme ça. Et à la fin de notre vie, qu'est-ce qu'on aura à dire? Ah ben oui, j'ai passé 300 000 heures devant la TV à être comme ça et 7h30 à aimer mon prochain. Qu'est-ce qu'il va vous dire Jésus à votre avis? Ah, il va vous dire, ben, je ne veux pas être à votre place à ce moment-là. Bougez-vous. Les chrétiens, on est toujours tentés d'arrêter de bouger. Vous savez, une des dernières modes qui a eu présent dans le christianisme, ça a été les codes de la Bible. Vous avez déjà entendu parler des codes de la Bible? Ça a été certains chrétiens qui se disaient, dans l'Ancien Testament, si on prend une lettre toutes les 20 lettres, en hébreu, il faut le faire, parce que c'est le texte original de l'Ancien Testament, ou en grec pour le Nouveau Testament. Dans ce cas-là, ça crée des mots, et ces mots, c'est des annonces de ce qui se passera à la fin. Si vous choisissez, j'avais même des programmes, parce que mon pasteur en Suisse m'avait dit, Stéphane, t'es un peu spécialiste en hébreu, il y a des gens qui me parlent de ce truc-là, tu pourrais m'aider. Alors j'ai acheté des livres, j'ai lu des livres là-dessus, j'ai lu 4-5 livres de différentes positions, ceux qui croient, ceux qui croient pas. Et finalement, ma conclusion était la suivante. Ça n'a pas prédit grand-chose. Il y avait eu un journaliste qui avait, semble-t-il, prédit la mort de Yitzhak Rabin. Bon, ça a été la seule... Michel Dronin, c'était un journaliste américain. C'était dans les années 90 que ça s'était passé, ça. Mais finalement, c'était une façon de passer beaucoup de temps à compter des lettres. Combien d'actions là-dedans ?
Zéro.
Combien de motivations à aimer ?
Zéro.
Quand on a souffert dans notre vie, on est tenté de s'asseoir et de dire maintenant c'est bon, j'ai encaissé ma dose, j'attends la venue de Jésus. On se dit ma souffrance a été telle, j'ai été déstabilisé, je n'ai plus d'espoir pour le futur. Donc, mon espoir, c'est Jésus qui doit le faire, ça. C'est son boulot. Maintenant, Jésus, je t'attends, moi j'ai souffert, je t'aime, passivement, je t'aime. La théorie, comment elle se met en pratique, je vous demande de m'expliquer. Mais moi, j'attends. Je suis désolé, vous ne pouvez pas attendre et dire j'aime. Si vous attendez, vous n'aimez plus. Si vous devenez passif, votre amour sera comment ? La charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que votre vie, c'est comme un film à la TV que vous regardez, ou est-ce que vous êtes un des acteurs ? Ça, c'est de ça que Jésus est en train de parler ici. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et au cas où ses disciples n'aient pas compris, les dernières paroles de Jésus vont être quoi ? C'est ce qu'on verra au chapitre 28.
Allez,
faites de disciples de toutes les nations et enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai enseigné. C'est ça le travail, la tâche que Jésus nous a invités à faire. Laurence, est-ce que tu peux passer à la dernière partie du texte pour aujourd'hui ? La grande tribulation. Versets 15 à 22. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie au lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuiront dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura pas, point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'au présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Jésus parle de quoi là ? Il parle de la destruction du temple ? De son avènement ? Ou de la fin des temps ? La fin des temps ? Alors on va lire. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, ce terme est un terme qui est utilisé dans Daniel. Daniel a été écrit plus de 5 siècles avant, à peu près 5 siècles avant Jésus-Christ, 4-5 siècles. Daniel va annoncer quelque chose qui se passera en 167 avant Jésus-Christ. Dans le temple, il va y avoir un roi, Antiochus Épiphane, qui va amener dans le temple, une statue de Zeus. On est sûr qu'il a amené un autel et il a fait des sacrifices à des dieux païens dans le temple de Jérusalem. Dont a parlé le prophète Daniel. Donc ça sera quelque chose comme ça. Que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Qui c'est parmi vous qui est en Judée ? Vous êtes ?
Non.
Tu es en Judée, toi, Betty ? Et toi, Colline, tu habites en Judée ? Non ? Donc c'est pas pour toi, ce texte-là. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Abomination de la désolation établie dans le lieu saint. C'est quoi le lieu saint déjà ?
Le temple.
Le temple. Si le temple est détruit, à votre avis, cette phrase, elle marcherait encore ?
Aujourd'hui ?
Ouais ?
Ben non.
Ben non, ça marcherait pas. Si vous n'avez pas de lieu saint, du temple, eh bien je suis désolé, mais ce texte-là n'a pas de sens. Donc à votre avis, il parle de quoi ce texte-là ? Il parle de la destruction du temple. Ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ça, c'est compréhensible pour les gens de l'époque, que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, celui dans les champs ne retourne pas en arrière. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Fuir où ? Fuir quoi ? Quand vous entendez parler de ça, vous allez vous fuir au piton de la fournaise ?
Des neiges.
Piton des neiges ? Ce texte-là parle de la destruction du temple. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Pourquoi est-ce que ça aurait été un problème un jour de sabbat? Ils n'avaient pas le droit de rien faire le jour du sabbat. Il n'y avait pas de magasin ouvert. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, si c'était un jour de sabbat, ça poserait problème?
Non.
Carrefour est ouvert même le dimanche maintenant, c'est ça? Oui, alors le vrai sabbat, c'est Christ. Ça marche, ça, pour la fin des temps, ces questions de jour de sabbat, ça a du sens? Ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. La détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ah, qu'est-ce qu'on va dire par rapport à ça? Si c'est littéral, vous êtes coincé, vous êtes obligé de dire, ben, on n'y est pas arrivé, puisqu'il y en a eu d'autres souffrances, mais... Est-ce que c'est le but d'être littéral de ce texte ici? Est-ce que c'est le but ou de dire c'est une souffrance immense? La destruction du temple a été une souffrance immense pour la foi des premiers. Vous imaginez ce que c'était d'avoir toute sa foi basée sur cela et que le temple soit détruit? Que vous soyez chassé? Ces jours, s'ils n'avaient pas été abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Israël, vers les années 65-67, après Jésus-Christ, s'est révolté contre Rome. Il y a eu un moment où Rome est venu marcher contre Jérusalem. Et il y a eu toute une légion romaine, je crois, qui est venue et qui a assiégé Jérusalem. Le siège n'a duré que 5 mois. Quand je dis que 5 mois, ça veut dire que c'était plus court, ça aurait pu être plus long. Et quand le siège s'est fini, les gens qui étaient à l'intérieur n'ont pas tous été tués. Le temple a été détruit. Mais pour les gens de l'époque, et l'historien Flavius Joseph le décrit bien, heureusement que le siège n'a pas été plus long. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas permis que le siège soit trop long afin que ceux qui lui appartenaient puissent survivre. La destruction du temple a eu lieu. Ça a été une catastrophe telle qu'il n'y en avait jamais eu. Alors cette parole était vraie pour les gens de l'époque. Pour nous, aujourd'hui, on dirait, bon, comme il n'y en aura jamais, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire, parce que, finalement, il y aura la fin des temps, et on sait qu'il y aura, à travers l'Apocalypse, quelque chose de très fort, et ça sera plus tard. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors certains vont peut-être dire, ah, ce texte, il n'y en aura jamais. Là, le pasteur dit que ce n'est pas la fin des temps, mais moi, je crois que c'est la fin des temps parce que ça serait littéral. Je vous dirais, priez. Et voyez, soit vous gardez cette phrase-là, lieu saint, sabbat, et vous dites ça, c'est pour la destruction de Jérusalem et du temple, et là, c'est pour la fin des temps, peut-être. Ou bien vous dites, ça, c'est une façon de parler pour le fait que ça sera une destruction immense. Autant de la destruction du temple. Je ne suis pas là pour vous dire quoi croire, mais essayer de vous guider pour que vous lisez bien la parole de Dieu et que vous puissiez la mettre en pratique. Est-ce que ce texte a pour but de vous dire « Attendez dans votre siège, regardez la télévision des événements du monde et vous allez voir la fin du monde venir » Non. Le point clé de ce texte, c'est on va voir, plus tard ça va être souligné, mais d'abord, faites attention, il y a l'amour qui va se refroidir. Des gens qui vont devenir des observateurs de leur vie. Faites attention, parce qu'il va y avoir aussi besoin d'évangéliser. Si vous voulez que la fin des temps, que Jésus revienne, quelle est la meilleure façon de dire Jésus revient? Annoncer la bonne nouvelle aux autres. C'est la seule façon. C'est la seule façon que Jésus donne. Vous voulez avancer? Est-ce que vous voulez faire partie du passé ou du futur? Si vous voulez faire partie du futur, priez pour ceux qui sont autour de vous. Aimez et annoncez l'amour de Jésus au maximum de personnes avec le plus de sagesse possible. C'est le sujet de ce texte. Est-ce qu'il parle de ce qui se passera à la fin des temps? On verra. Dans la deuxième partie du chapitre, nous avons des choses qui se rattachent à la fin des temps. Et surtout, ce qui intéresse vraiment Jésus, c'est pas de donner tous les signes, c'est de vous dire comment veiller. Il n'est pas dit comment attendre, il est dit comment veiller. Vous savez quelle est la différence entre attendre et veiller? Veiller, on est sur nos gardes. Veiller, on est actif. Attendre, on se dit ça va venir. Et vous allez voir que cette fin de chapitre et les deux autres semaines sur les sermons sur le chapitre 25 vont nous parler de comment veiller. Nous allons finir ce sermon et j'aimerais vous inviter à vous poser la question. Est-ce que je suis acteur de ma vie ou est-ce que je suis observateur ? Est-ce que j'attends que Jésus fasse et moi, tant qu'il ne fait pas, j'attends quelque chose, je ne sais pas très bien quoi, mais j'attends. Ou est-ce que vous êtes acteur de votre vie et vous dites, chaque minute que Dieu me donne, j'agis, je sème dans l'amour, dans la vérité, dans l'annonce de l'amour de Dieu envers d'autres, pour d'autres. Est-ce que vous faites, ce que vous faites a du sens? Ça peut prendre mille formes, mais l'intention, c'est apprendre à aimer. Et je vous invite à vous poser cette question. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à voir si nous sommes acteurs de nos vies ou si nous sommes des observateurs. Et si nous sommes des observateurs, aide-nous, Seigneur, à trouver ta main, à trouver comment être actif, marcher, avancer, ne plus nous laisser happer, séduire par tout ce qui nous rend passifs. Mais aide-nous à devenir acteurs de nos vies, actifs, des gens qui aiment, des gens, Seigneur, qui se tournent vers toi et vers notre prochain. Bénis chacune de mes sœurs, chacun de mes frères ici présents et aide-les à discerner pendant cette minute ce que toi tu veux leur dire. La direction que tu veux leur donner à travers ce texte important. Ce texte qui est présent dans tous les évangiles. Dans les trois évangiles synoptiques, il est presque présent mot à mot parce qu'il était très important. Bénis mes frères et sœurs, bénis-nous Seigneur, bénis-moi, donne-nous de pouvoir discerner. Nous t'offrons cette petite minute et pendant cette semaine, parle-nous à nouveau Seigneur. Si tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça, comment veiller et non pas attendre? Comment veiller de manière active? Seigneur, nous te donnons cette minute maintenant. Parle-nous Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur, que nous puissions toujours plus entrer dans tes plans d'amour, de vérité, de joie, de bonheur, pour que nous entrions dans le bonheur d'apprendre à aimer. Car combien de bénédictions quand nous apprenons à aimer. Enseigne-nous, Seigneur, nous voulons marcher. Amen.